Radio Okapi. Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de votre magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, on va aborder à ce deuxième sujet sur le cause et moyens de traitement des myomes chez la femme. Nous avons en ligne notre invité, docteur Odimba Jules. Il est gynécologue. Bonjour docteur.
Bonjour.
Voilà, merci de nous avoir rejoints dans ce magazine pour parler des causes de myomes, mais également le traitement. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à composer les 081-890-63-94 ou encore les 099-716-63-94. Docteur, avant de parler de causes et traitement de myomes, qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre par myome?
Alors, merci Radio Okapi pour l'honneur que vous me faites ce matin d'intervenir en direct sur ce sujet vraiment qui fait partie de l'actualité médicale, parce que beaucoup de femmes en souffrent. Alors, en résumé, on va retenir que le myome, en fait, ce sont des masses bénignes qui se développent aux dépens de l'utérus communément appelé matrice. Chez la femme, bien entendu. Donc, c'est cet organe-là là où se développe l'enfant, et il peut aussi souffrir de certaines maladies, dont les myomes, qui sont en fait des masses bénignes, à l'opposé des masses malignes, qui sont les cancers, en fait, qui vont se développer au niveau de la matrice. Voilà, en résumé, c'est que c'est les myomes utérins.
Alors, sinon, dans nos petites recherches, lorsqu'on préparait cette émission, il semble que cette tumeur bénigne, donc ce myome, peut être trouvé chez une femme sur 4 de plus de 30 ans. Pourquoi?
Oui, alors les myomes, on va les retrouver, en tout cas dans plus de 25% des cas, donc chez au moins une femme sur 4, comme oui. Vous l'avez dit.
Oui.
Et les études ont montré que les femmes qui sont concernées, ce sont plus les femmes en âge de procréer autour des 25-30 ans. Bien évidemment, c'est un constat épidémiologique, mais qui s'explique par des arguments scientifiques par rapport au fait que c'est une tumeur qui, dont le développement dépend des hormones, au fait, des hormones de la femme. Et donc, il faut que la femme soit en activité, qu'elle atteigne déjà d'abord sa vie reproductive. Comprenez par la vie reproductive, de façon simple, dès que la femme a eu ses premières règles. Et ça intervient généralement autour des 12-13 ans. Et donc, les temps que son organisme commence à s'accoutumer à ça, qu'elle soit soumise aux influences de ses hormones, qui sont principalement les estrogènes. Et dans les temps que la maladie se développe, on va constater que la plupart des femmes vont finalement s'en plaindre autour des 25-30 ans. C'est juste le temps de développement de la maladie.
Alors, puisque vous avez parlé des hormones, est-ce qu'il faut s'imaginer que le cause peut aussi être lié à la question des hormones?
Justement, en fait, ce qui est des causes des myomes, on va plus parler à terme des facteurs de risque.
Ah ouais, facteurs de risque, oui.
Voilà, on va parler à terme des facteurs de risque parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas une cause clairement identifiée pour dire que c'est telle chose qui va donner des myomes. Voyez-vous, comme à cas de la malaria, nous savons que c'est la piqûre des moustiques, des anopheles qui va vous transmettre la maladie. Mais pour les myomes, c'est un groupe de facteurs, un ensemble de facteurs qui vont se mettre ensemble et qui vont, ces différents facteurs se mettent ensemble, ils se conjuguent et vont amener à l'éclosion finalement des myomes. Mais les sous-bassements, au fait, tous ces facteurs-là passent par des perturbations des hormones de la femme, notamment les estrogènes. Donc, quel que soit, tous ces facteurs-là vont faire que ces femmes-là aient des taux élevés de cet hormone-là qu'on appelle estrogène. En fait, l'estrogène, c'est l'hormone de la femme. C'est cet hormone-là qui fait à la femme ce qu'elle est. Toute la féminité, tout ce qu'on admire chez la femme elle tient ça de cette hormone-là qui sont les estrogènes. Et les femmes qui ont les taux d'estrogène élevés, pour telle ou telle autre raison, sont sujettes finalement à développer des myomes. Ouais.
Alors, d'accord. Excusez-moi. Alors, docteur, puisque vous avez dit, c'est une masse qui se développe aux dépens de l'utérus. Est-ce que, et avant que cette masse puisse atteindre une certaine proportion, est-ce qu'il y a déjà des signes d'alarme qui peuvent déjà alerter une femme qu'il y a au risque de développer un myome?
Il y a des signes pour dire que j'ai pas bien compris la question.
Mais vous avez dit c'est une masse qui se développe au dépend de l'utérus. Alors oui. Ma question c'est de savoir est-ce que il y a des signes d'alerte, des signes qui permettent déjà à une femme ou peut-être à vous, gynécologue, de soupçonner peut-être ça peut être un myome qui est en train de se développer.
Oui, effectivement il y a des signes. Alors les myomes, il y a des myomes qui peuvent être asymptomatiques. Ça veut dire que la femme a des myomes, mais elle ne présente aucun signe, aucun symptôme. Et ces myomes-là, on va les découvrir de façon fortuite lors d'un examen gynécologique ou au cours d'une échographie qu'on va indiquer ou qu'on va faire pour tout à fait autre chose. Et en passant à la sonde au niveau de la matrice, on voit qu'elle a des myomes. Là, ce sont des myomes asymptomatiques, donc ils ne s'expriment pas, qui n'ont aucune symptomatologie. À l'opposé, les myomes peuvent être symptomatiques. Donc, ça veut dire donner une expression clinique, donner des signes, au fait, des signes, des symptômes cliniques qui peuvent faire que la femme puisse venir consulter. Alors, ces signes-là peuvent être des saignements abondants pendant les règles. Elle va vous dire que, docteur, moi, avant, quand j'avais mes règles, j'ai saigné pendant 3 jours et j'ai changé mes bandes hygiéniques le matin, je sors jusqu'au soir, quand je reviens, je me lave et puis je mets une autre bande. Mais depuis un moment, docteur, quand je commence à saigner, les bandes hygiéniques ne suffisent plus. Moi, je dois mettre des Pampers. Ou bien, docteur, la quantité reste normale, mais avant, j'ai saigné pendant 3 jours, 4 jours. Mais là, je commence parfois à saigner jusqu'à 7-10 jours. Vous voyez, donc, le saignement abondant pendant les règles, et ça, c'est un signe qui peut faire penser à des myomes. Bien évidemment, il y a d'autres causes, il y a d'autres maladies qui peuvent donner ce signe-là, mais ça, c'est un signe qui peut faire penser à des myomes. À part ça, elle peut se plaindre des douleurs au niveau du bas-ventre. Elle va te dire, depuis un moment, j'ai des douleurs, vraiment des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Et ces douleurs-là, généralement, n'ont rien à voir avec les règles. Que ce soit pendant ou en dehors des règles, elle présente des douleurs au niveau du bas-ventre. Une autre, elle va présenter des signes en rapport avec la compression des organes voisins. Si les myomes ont tellement pris du volume et c'est devenu trop gros, alors comme l'utérus et au voisinage des autres organes, ces masses-là peuvent commencer à comprimer les autres organes, notamment la vessie. Et cette femme-là peut présenter des troubles urinaires, elle peut avoir une incontinence urinaire, ou avoir des envies trop répétées d'uriner, elle peut avoir des constipations, donc, parce qu'il y a une masse au niveau de la matrice qui comprime les intestins, et ça fera qu'elle aura du mal à faire les grands besoins, donc elle va commencer tout le temps à poser des constipations. On va soigner, mais après les traitements, les constipations reviennent. Donc, c'est cela autant des signes. Mais en dehors de tout ça, les myomes peuvent aussi s'exprimer par des problèmes de conception. Une femme qui a des myomes, elle peut aussi avoir des problèmes pour concevoir. Pas toujours, hein. J'ai dit bien, elle peut. Elle peut avoir des problèmes pour concevoir. Et même lorsqu'elle conçoit, du fait des myomes, si elle a des gros myomes, elle peut commencer à perdre des grossesses, avoir ce qu'on appelle des avortements à répétition. Et voilà, ce sont là autant de signes qui peuvent faire penser à des myomes. Quitte à si jamais parmi nos auditeurs ou nos auditrices, il y en a qui se retrouvent parmi ces signes-là, il faut penser aux myomes et consulter, voir un médecin pour faire les diagnostics. Voilà.
Docteur, avant de parler de traitement, vous avez parlé de myomes asymptomatiques. Alors, donc, j'imagine que c'est bon pour des femmes qui sont déjà en âge de procréer, de temps en temps aller pour une consultation gynécologique.
C'est ce qu'il faut. Normalement, il est recommandé à toutes les femmes, au moins une fois tous les 2 ans, même quand tout va bien, même quand elle n'a aucun symptôme, de voir un gynécologue pour un check-up, mais bon, malheureusement, dans nos conditions, dans notre pays, c'est un peu limité parce que les soins sont, comme vous le savez, les soins sont supportés par les malades eux-mêmes. voir un gynécologue, ça ne court pas les rues, donc il faut entre 30 et 50 dollars de consultation. Tout ça, bon, c'est pas évident, mais pour celles qui peuvent, il faut idéalement voir un gynéco au moins une fois tous les deux ans, même lorsque tout va bien. Même lorsque vous avez l'impression que vous allez bien, c'est toujours important de voir un médecin pour un check-up et tout ça. Et bien encore, les besoins sont d'autant plus importants, surtout lorsque vous présentez un des signes que je viens d'énumérer.
Bien, alors avant d'ouvrir le standard pour accorder la parole aux auditeurs, docteur Jules Dimon, on va parler traitement. Lorsque le diagnostic a été fait, il s'agit d'un myome, et comment c'est fait la prise en charge médicale?
Oui, alors la prise en charge a deux volets. Il y a le premier volet, c'est l'abstention thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai diagnostiqué des myomes, des petits myomes, chez une femme qui ne s'est plaint d'aucun symptôme. J'avais demandé une échographie pour autre chose, mais en faisant mon échographie, je vois qu'elle a quand même des petits myomes. Mais je demande, est-ce que vous saignez abondamment pendant les règles? Elle me dit non. Est-ce que vous avez des douleurs au bas-ventre? Elle me dit non. Est-ce que vous avez des problèmes pour concevoir? Elle me dit non. Elle me dit non. Elle me dit non. Je vois qu'elle n'a aucun signe, bien qu'elle a des petits myomes, et qu'elle n'a aucun signe. Ce qui est recommandé, c'est de ne rien faire. Il faut informer à la dame que vous avez des myomes, mais pour le moment, ça, comme ça ne dérange pas, on ne va pas aller les toucher. On va surveiller ça. Si jamais ça pose problème, on va les traiter. Ça, c'est la première approche. À côté, pour des myomes symptomatiques, donc pour des myomes qui ont des signes, les signes que je venais d'énumérer, pour ce genre de myomes-là, il est recommandé de les traiter. Alors, les traitements, ils peuvent être médicaux ou chirurgical. Quand j'ai dit médical, ça veut dire qu'avec les médicaments. Avec les médicaments, il existe des traitements, des médicaments qu'on peut donner pour, pas pour faire disparaître complètement les myomes, mais plus pour réduire le volume et supprimer les certains symptômes, notamment les saignements ou bien les douleurs. Mais bon, la plupart de ces médicaments-là, tous ces médicaments-là sont des hormones, au fait. Et qui dit hormones, parfois lorsqu'on les donne, ça s'accompagne souvent des effets secondaires. Parfois, ça peut mettre la femme en ménopause artificielle, et donc qui va faire qu'elle est peut-être, elle a peut-être 20-25 ans, mais si vous le mettez sous ce traitement-là, et pendant tout ce temps, elle va pas avoir ses règles, elle aura des bouffées de chaleur, et fait comme si elle était ménopausée. Et puis il y a d'autres médicaments, d'autres hormones qu'on peut aussi donner, mais certains d'ailleurs venaient d'être retirés du marché parce que ça entraîne des problèmes hépatiques et tout ça. Ce qui fait que les traitements médicaux, les traitements des myomes avec les médicaments est aussi vraiment limité. Ça ne donne pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que les résultats sont assez décevants parce que ça ne fait pas disparaître la maladie, ça va juste faire diminuer la masse, le volume de la masse, mais la masse reste là et après les traitements, ça peut encore continuer à croître et les symptômes qui étaient partis peuvent revenir. Ce qui fait que ce traitement-là n'a pas beaucoup trop d'intérêt, sauf lorsque la chirurgie n'est pas possible. Et à l'opposé du traitement médical, c'est le traitement chirurgical. Ça veut dire une intervention chirurgicale. Donc, aller opérer, aller enlever les myomes. Dans cette opération-là, ça peut consister soit à enlever seulement les myomes et laisser la matrice en place. Et là, c'est plus pour les femmes qui ont un certain âge, et là, moins de 30 ans ou moins de 35 ans, et là, encore envie de concevoir. Et là, elle n'a peut-être jamais conçu ou bien elle a un seul enfant. Elle vous dit que, docteur, moi, j'aimerais encore ajouter 2-3 enfants. Mais pour celle qui a un âge un peu plus avancé, elle est au-delà des 35-40 ans, elle a des myomes, elle a déjà eu 3-4 enfants. Pour celle-là, s'il faut opérer, on préfère plus aller enlever la matrice. Donc, on enlève la matrice et les myomes directement au même moment. Donc, en résumé, le traitement il peut consister soit à une abstention, vous avez dit, on ne fait rien, mais on ne traite pas, mais on surveille pour les myomes qui ne dérangent pas. Et dans des petites dimensions qui ne dérangent pas encore. Mais pour les myomes qui dérangent, donc qui donnent des signes, il faut aller les traiter. Les traitements peuvent être soit avec des médicaments, donc des hormones, mais malheureusement, greffés de beaucoup d'effets secondaires, ou la chirurgie. Donc, qui peut consister soit à enlever les myomes ou enlever la matrice tout entière avec sa maladie. Voilà.
Voilà, voilà docteur Gilles Odimba, on revient à vous. Le temps pour nous de nous tourner vers le standard. On a déjà des auditeurs qui sont en ligne. Il y a Likambo qui nous appelle de Ouacha, également Platini qui nous appelle depuis Mbandaka. Si vous êtes également intéressé sur ces sujets, on est en train de parler de myomes, cause des traitements. N'hésitez pas à composer les 0-81-890-63-94 ou les 0-99-756-63-94.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
On va accorder la parole à Likambo qui nous appelle de Ouacha. Bonjour Likambo.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, monsieur Likambo, province de Outouélé, précisément à la ville de province de Outouélé.
Bien, on vous écoute. Votre question sur ce sujet des myomes, cause et traitement.
Merci pour l'invité. Je me posais seulement la question. Quels sont les signes des myomes?
D'accord, c'est peut-être vous nous avez pris en cours de l'émission, l'invité nous en a parlé, mais il pourra revenir sur votre question. Merci à Likambo d'avoir appelé depuis Ouacha. Platini Mbombo, vous êtes à Mbandaka. Bonjour Platini.
Marcel, bonjour. Bonjour l'invité.
On vous écoute Platini.
Voilà, merci beaucoup Marcel pour m'accorder dans cette émission. Je pense que je salue d'abord l'invité. Parce que vraiment, il a dit, il a évoqué, surtout avec le myome qui dérange nos mamans, nos jeunes filles à travers le pays. Alors, moi, je voudrais parler, demander un peu à l'invité. La première est de savoir, je voudrais avoir l'âge. Hein, quel âge qu'une femme peut attraper cette maladie, ce qu'on appelle aujourd'hui la myome. Et la deuxième, je ne sais pas si une femme trouve la maladie myome, est-ce qu'elle peut être accouchée? Là aussi, j'aimerais un peu avoir tout le questionnement autour de ça. Et la troisième, c'est question, je voudrais aussi savoir si cette maladie est héréditaire. Je ne sais pas si une maman qui a des enfants, et si oui, elle a cette maladie, ça s'appelle la myome, si cette maladie peut aussi retourner avec leurs enfants. Et cette maladie-là, pour terminer la question, cette maladie-là, c'est lieu seulement aux femmes ou bien aussi les garçons peuvent aussi trouver cette maladie? Je ne sais pas si les noms de cette maladie, mais c'est une maladie qui a lieu seulement ou soit tout le monde peut attraper cette maladie, soit les garçons, soit les petits jeunes garçons, tout ça, trouver cette maladie. Et pour clôturer, je voudrais aussi demander à l'invité, si une femme qui a un myome, là, le médicament, première catégorie, il peut prendre quel médicament pour première catégorie? Voilà un peu ce que je voudrais avoir un peu de questionnement autour de ça, Marcel.
Merci Platini d'avoir appelé depuis Mbandaka. On revient à notre invité, docteur Odimba Jules, qui est gynécologue. Docteur, vous avez suivi, il y a Likambo qui a cherché à savoir qu'est-ce que on peut présenter comme signe lorsque une femme développe un myome. Vous allez revenir sur ça. Vous avez déjà évoqué au début de cette émission qu'il y a par exemple des saignements abondants qui font partie de signes. Mais il y a Platini qui a également posé la question de savoir s'il pouvait bien revenir à si le myome peuvent concerner les femmes autour de quel âge. Est-ce qu'une femme qui développe un myome a des problèmes pour accoucher? Il a également cherché à savoir si c'est héréditaire. Et puis le traitement de médical de première intention lorsque une femme développe un myome. Docteur Odimba Jules.
Ok, merci beaucoup. Merci aux auditeurs pour les questions. Alors je vais revenir sur les signes des myomes. J'avais dit que on les regroupait en deux. Il y a des myomes qui peuvent ne présenter aucun signe lorsqu'ils sont asymptomatiques. À l'opposé, les myomes peuvent s'exprimer par des signes ou des symptômes. Et ça consiste essentiellement à des saignements abondants. Elle va te dire, ok docteur, moi pendant les règles, j'ai perdu beaucoup de sang, soit en termes de durée ou de quantité. À part ça, on peut avoir des douleurs au niveau du bas-ventre lorsque les myomes ont subi certaines transformations. À part ça, on peut avoir des compressions d'organes voisins, donc, et qui peuvent s'exprimer par soit des constipations, soit des troubles urinaires, l'incontinence ou bien l'envie fréquente d'uriner, ou parfois des gonflements des jambes lorsque les gros vaisseaux sont comprimés par des grosses masses myomateuses. Donc voilà. Et aussi, on peut avoir pour certaines femmes des problèmes de conception justement liés au myome. Et parfois même des certains soucis à rapport avec l'accouchement. Je vais revenir. Alors là, nous l'avons dit que ça concernait la femme pendant la vie des reproductions. La période reproductive va du jour où la femme a vu ses premières règles jusqu'au jour où elle va en ménopause. Donc, c'est pendant ce temps-là qu'une femme peut développer le myome. Pardon, déjà, une femme qui a déjà eu ses ménages, qui a vu ses premières règles autour des 12-13 ans, jusqu'à ce qu'elle aura peut-être 45-50 ans, jusqu'à ce que les règles partent, elle est candidate à développer des myomes. Parce qu'à ce moment-là, il y a encore cette hormone-là qui est sécrétée à grande quantité. L'hormone dont j'avais parlé, les œstrogènes, qui sont développés à grande quantité, qui peuvent favoriser l'éclosion des myomes. Mais il faut retenir que même après la ménopause, une femme peut diagnostiquer les myomes. Mais là, il y a une nuance à apporter. Ça veut dire que la maladie avait déjà commencé pendant qu'elle était encore dans la période reproductive, donc avant la ménopause, mais c'est le diagnostic qu'on a fait bien après. Vous voyez? Donc, mais après la ménopause, en principe, les myomes ne vont plus se développer. Même pour celles qui avaient déjà les myomes, on a remarqué qu'après la ménopause, les myomes régresse de soi parce que il y a justement cette hormone-là qui voit ses taux chuter de façon drastique. La deuxième question de M. Platini, c'était sur... il voulait savoir si les myomes peuvent entraîner des problèmes pendant l'accouchement. Oui, effectivement, M. Platini, et c'est vraiment le moment de le dire, un accouchement sur un utérus myomateux, donc un accouchement chez une femme qui a des myomes, ce n'est pas un accouchement ordinaire. C'est un accouchement à risque parce que ce sont des femmes qui, premièrement, elles auront des problèmes pour avoir des contractions. Les contractions, ce sont les douleurs de travail d'accouchement, les douleurs que présentent les femmes, on appelle ça contractions utérines. Et les contractions chez ces femmes-là sont généralement de mauvaise qualité parce que les myomes empêchent la transmission de l'influx nerveux qui ne va pas se faire normalement et donc les contractions ne seront pas de bonne qualité. Donc c'est déjà un accouchement à problème. À part ça, même si elle arrive quand même à accoucher par voie basse, généralement, ce sont des femmes qui auront des problèmes ou qui sont vraiment à risque de présenter des hémorragies du postpartum, comme on appelle ça, dans des hémorragies après l'accouchement, des graves hémorragies qui peuvent même les emporter après l'accouchement. Et ça va nécessiter une surveillance particulière. Donc, les myomes, lorsque une femme a des myomes, effectivement, on peut avoir des problèmes pendant l'accouchement, soit par rapport avec les contractions utérines qui ne seront pas de bonne qualité, ou bien après, si on n'a pas bien surveillé, si on ne fait pas bien les choses, même quand on fait bien les choses, on peut toujours avoir des problèmes en rapport avec la contraction de l'utérus après l'accouchement, et donc ce qui peut amener vers des hémorragies assez importantes. L'autre question, c'était de savoir si les myomes sont héréditaires ou non. Alors, ça, c'est encore une question très importante. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que héréditaire, je dirais non. Vraiment, au vrai sens du mot, strictement héréditaire, non. Par contre, je dirais que génétique, oui. Il y a une nuance, hein, c'est un peu différent entre quand on parle de la génétique et de l'hérédité. Parce que les myomes ne se transmettent pas suivant les règles de l'hérédité. Les règles de l'hérédité veulent que papa donne une partie, maman donne une partie et on voit la maladie chez l'enfant. C'est le cas de la drépanocytose, par exemple, c'est une maladie qui est héréditaire. Donc il faut que l'enfant hérite les gènes malades des papas et des mamans pour que la maladie se développe l'enfant. Ça, c'est l'hérédité. Par contre, dans les myomes, il y a une composante génétique. Donc on a retrouvé des anomalies au niveau des gènes, au niveau de certains gènes des femmes qui ont des myomes. Mais il faut aussi noter que on a remarqué que les myomes ont aussi une tendance familiale. Ça pour autant que ça soit vraiment héréditaire. Ça veut dire que pour une maman ou dans une famille, si lorsque la maman a fait les myomes, l'enfant a un peu plus de chance ou de malchance, hein, sa fille a un peu plus de malchance de faire les myomes comparé à la fille de la maman qui n'a pas fait des myomes. Ou lorsque les sœurs ont fait des myomes, les autres sœurs ont un peu plus de chances d'avoir les myomes que l'autre fille ou l'autre femme dont les sœurs n'ont pas fait des myomes. Mais on n'a pas encore établi les caractères héréditaires. Donc il y a ce qui est vrai, il y a quand même une composante génétique, mais qui n'est pas tout à fait héréditaire parce que ça ne se transmet pas suivant les règles de transmission mendélienne. Donc suivant les règles de transmission de l'hérédité. Alors, l'autre question, c'était...
Cette question sur le traitement, hein, je sais pas s'il faut en parler, mais le traitement de première rétention, quand c'est dans le traitement médical, c'est quoi le traitement?
Oui, bon, justement, parce qu'il y avait une question avant ça. En première rétention, je l'avais dit, le traitement médical, il est vraiment décevant, oui. Parce que ce sont des hormones. Bon, là, ça dépend. Donc, c'est un traitement qui doit être personnalisé. Qu'est-ce que la personne présente comme signe? Elle a quel âge? Quel est son désir? Si elle est jeune, elle n'a jamais accouché, elle a des petits myomes qui ne dérangent pas, je ne donne rien, je surveille. Oui. Elle est jeune, elle a des petits myomes, mais ça dérange à terme de saignement. Bon, je peux donner un traitement médical pendant 6 mois, je peux donner des hormones, certaines hormones comme le décapeptyl, on peut donner pendant 6 mois. Et puis, quitte à lui dire que ça ne va pas faire disparaître les myomes, mais ça va régresser et on va surveiller. Elle est vieille, elle a un âge assez avancé, elle ne veut plus être opérée, mais elle est dérangée par les saignements. Je peux donner un traitement médical. Je sais qu'elle a déjà 45 ans. Je donne un traitement médical pendant peut-être une année. J'obtiens un tarissement de l'hémorragie et je compte sur la ménopause. Je sais que dès qu'elle aura sa ménopause, de façon naturelle, les myomes vont arrêter de saigner et ça va régresser. Donc, le traitement, il est tout à fait personnalisé, hein. Donc, c'est difficile de vous dire qu'en première rétention, à des myomes, donner ça. Non. Oui. Il faut intégrer tout ce que j'ai dit, tenir compte de l'âge, tenir compte de quels symptômes elle présente, tenir compte du fait qu'elle a encore besoin ou non de concevoir. Donc, je tenir compte de tout ça et de voir quelle approche thérapeutique est adaptée au malade qui est devant vous.
Oui.
Et est-ce que les myomes vont concerner les femmes, les hommes?
Ah ouais, les hommes, voilà, si c'est les hommes sont également concernés.
Alors, il faut dire ceci. Ici, on parle de myomes utérins. Oui. Myomes utérins. Et l'utérus, c'est un organe qui est exclusivement féminin. Nous, les hommes, on n'a pas d'utérus. Donc, si on parle de myomes utérins, ça va concerner seulement les femmes. Par contre, si on parle seulement de myomes de façon globale, bon, c'est vrai que dans l'attendement, les grands publics, on parle myomes, on fait seulement allusion aux myomes utérins, hein. Ça, c'est pour les grands publics. Mais pour nous, les scientifiques, on sait que myome, ça veut tout simplement dire une masse, une tumeur bénigne qui se développe au dépens d'un muscle lisse. Or, le muscle lisse, il n'y en a pas qu'au niveau de la matrice, il y en a à plusieurs endroits du corps humain, notamment au niveau des vaisseaux, au niveau des intestins, tout ça. Donc, si on prend cette définition-là du point de vue scientifique, qu'on passe seulement des myomes sans préciser utérin, ça peut concerner n'importe quel organe qui a un muscle lisse. Par contre, ici, selon la philosophie de l'émission et même ce qui est dit dans la cité, quand on dit myome, comprenez par myome utérin, et parce qu'ici c'est un myome utérin, donc ça va concerner seulement la femme.
Ouais, merci docteur pour en tout cas c'est toutes ces précisions, parce que dans l'entendement lorsqu'on parle de myome, en tout cas on pense directement au myome utérin chez la femme. Oui. Voilà, on va poursuivre avec vous docteur Odimba Jules, le temps pour nous d'accorder la parole à deux autres auditeurs qui sont en ligne, Michel qui nous appelle depuis Moubi. Et docteur Mwamba Crisson qui est à Kadanga. Michel, vous nous appelez depuis Moubi au Nord Kivu. Bonjour Michel.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute Michel.
Oui, j'ai justement trois petites questions que je voulais juste poser à l'invité.
Oui.
Je voudrais juste savoir quelle est la conséquence des organes comprimés lorsque le myome a un grand volume. La seconde question, je voudrais aussi savoir quelle est la conséquence infantile lorsque la femme a une grossesse et que la maman aussi a une AMIOM, quelle est la conséquence qui peut survenir pendant pendant la période de la grossesse chez cet enfant?
Non, Michel, vous voulez, Michel, s'il vous plaît, répétez la deuxième question, j'ai pas bien compris.
La deuxième question, je voudrais savoir quelle est la conséquence enfantine qui peut survenir lorsque la maman est enceinte, mais aussi a un myome utérin.
D'accord. Et la troisième question?
Et la troisième question, je voudrais aussi savoir, pendant le travail d'accouchement, comment différenciez-vous l'hémorragie de la DPPNI et celui de myome?
Vous avez l'hémorragie de répéter le terme, l'hémorragie de quoi?
DPPNI.
D'accord, certainement le docteur Jules va mieux comprendre ça. Et d'accord, merci à Michel d'avoir appelé à DP Immobilier Nord Kivu. Docteur Mwamba Christian, vous êtes à Kananga. Bonjour docteur Christian.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Surtout bonjour au professeur.
Bon, on vous écoute docteur Christian, on vous écoute.
Ok, ma contribution était beaucoup plus au niveau du siège des fibromes utérins. Pourquoi? Parce que l'utérus a ses différentes parties. Par rapport à ceci, nous avons les cols, les corps et l'isthme de l'utérus. Mais selon la localisation, on peut aussi avoir des fibromes sous-muqueux ou fibromes intracavitaires. Ici, le fibrome peut être situé dans la cavité utérine recouverte par l'endomètre. Nous pouvons aussi avoir les fibromes interstitiels ou fibromes intramurales, ou les fibromes peut être totalement situés dans l'épaisseur du muscle utérin, et puis les fibromes sous-serrés. Et aussi, je voudrais aussi beaucoup plus insister par rapport aux examens paracliniques. En dehors de la paraclinique, le professeur a beaucoup plus insisté sur l'échographie. Mais non seulement l'échographie, mais aussi la radiographie abdomen à blanc, elle permet aussi de repérer un fibrome calcifié et aussi l'hystérosalpingographie. Cet examen est d'une importance capitale. Si le myome sous-niqué ou intracavitaire, on peut avoir une cavité agrandie, souffler une image lacunaire intracavitaire permanente. L'hystérosalpingographie permet aussi de mettre en évidence une lacune homogène avec une augmentation de la cavité utérine qui peut être déformée et prise par les trompes. Et aussi, par rapport aux signes cliniques, il y a vraiment beaucoup de signes cliniques. Mais certains dans nos milieux ici, peut-être les milieux qui ne sont pas beaucoup plus équipés, il est vraiment difficile de faire la mise en évidence du fibrome utérin par l'hystérosalpingographie, l'échographie et consorts. Mais si la malade se présentait avec des métroragies et puis elle peut se plaindre des douleurs pelviennes qui peuvent être secondaires à des myomes, voire même des dyspareunies, des leucorrhées, des hypogastralgies. Donc les signes sont vraiment nombreux pour certifier les myomes utérins. Et aussi, cette maladie, vraiment, c'est une maladie qui entraîne des complications obstétricales. Nous avons l'influence du myome sur la grossesse. On peut avoir des fausses couches spontanées qui peuvent arriver tardivement, avoir des placentas prévia, des dystocies par myome praevia. Nous pouvons avoir aussi des hémorragies de la délivrance, voire même des grossesses extra-utérines et aussi des métrorragies du premier trimestre. Nous pouvons aussi avoir des nécrobioses aseptiques, compression pelvienne, voire aussi la torsion du myome sous-serré pédiculé. Voilà au moins ce que je voulais contribuer par rapport au sujet du jour. Merci.
Voilà, merci docteur Mwamba Christian, en tout cas de votre contribution, mais il faut le dire, il y avait beaucoup de termes techniques. En tout cas, merci le docteur Jules Odimba, qui est notre invité, il va revenir par rapport à tout cela. Merci d'avoir appelé depuis Kananga, docteur Jules Odimba. Voilà, et la Michel qui a parlé qui a cherché à savoir quelles sont les conséquences des organes comprimés lorsque le myome est très gros. Il a également cherché à savoir des conséquences s'il a des conséquences sur l'enfant. Lorsqu'une femme a un problème de myome, il a cherché également à parler, il a parlé également des hémorragies. Certainement, vous avez pu comprendre des différentes hémorragies à qui peuvent être liées au myome. Et également, docteur Christian, qui est revenu sur le siège de l'utérus, il a insisté par rapport à ça et sur les différents examens et aussi sur le SID. Mais avant de répondre, docteur Julio Dimba, s'il a une précision à faire sur le fibrome et le myome, parce qu'on a entendu par le docteur Christian parler des fibromes utérins.
Alors, merci beaucoup. Je remercie docteur Christian pour son intervention. Mais bon, il faut, on reste dans les contextes de l'émission et on va pas dire, c'est pas un cours de médecine qu'on est en train de donner. Alors, les fibromes, et les myomes, c'est synonyme, au fait. C'est synonyme. Dans les myomes, on peut l'appeler aussi fibrome, on peut aussi l'appeler léomyome utérin. Donc, c'est synonyme. Mais myome, c'est le terme qui est généralement le plus utilisé à la cité. Et comme on est, c'est une émission grand public, c'est pourquoi on préfère parler des myomes. Mais on peut aussi appeler ça fibrome utérin, on peut aussi appeler ça léomyome utérin. Alors, je vais revenir un peu sur ce que Dr. Christian a dit après, mais bon, je commence par la question de M. Michel. Quelles sont les conséquences des organes comprimés? Alors, je l'avais dit, les conséquences vont dépendre de l'organe qui est comprimé. Je vous ai dit que les myomes peuvent comprimer les intestins, donc notamment les rectums. Donc c'est la partie de l'intestin qui est la plus basse et la plus à contact avec la matrice. Lorsque c'est cette partie-là qui est comprimée, la personne, la femme, aura des constipations qu'on qualifie d'opiniâtres. Opiniâtres, pourquoi? Parce que ça ne s'élève pas avec les laxatifs. Vous donnez les laxatifs, elle peut dégager un peu, mais après ça revient. L'autre conséquence, ça comprime les voies urinaires, donc notamment les uretères. Les uretères sont en fait des tuyaux qui amène les urines des reins vers la vessie. Lorsque ces tuyaux-là sont comprimés, nous allons avoir ce qu'on appelle une dilatation pied-localicielle. Donc, les tuyaux-là, c'est un peu comme, imaginez-vous, vous avez un tuyau de la régie des eaux et qu'à un certain niveau, il y a un obstacle, l'eau ne sait plus passer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, en amont, la pression va augmenter. Et comme c'est un organe qui est extensible, ça va commencer à prendre du volume. Et au niveau de l'usine, il y aurait un retentissement parce que l'eau ne sait pas passer. Donc l'usine qui est ici vue comme les reins peuvent entrer en souffrance. Donc on peut avoir une insuffisance rénale chronique du fait des myomes qui ont comprimé les tuyaux qui ramènent les urines vers la vessie pour que ça soit dégagé. Une autre conséquence, c'est que si les gros myomes là compriment les gros vaisseaux, dans les vaisseaux, en fait, sont les tuyaux qui amènent les sangs, soit vers les tissus ou bien les tissus vers les cœurs. Lorsque ces organes-là sont comprimés, donc ça, il y aura un gène dans la circulation sanguine et la femme peut se présenter avec des gonflements des membres inférieurs du fait de la compression des organes, disons du fait de la compression des gros vaisseaux. Et j'avais aussi dit, ça peut aussi comprimer la vessie. Et lorsque la vessie est comprimée, c'est une femme qui aura des problèmes de miction, soit des incontinences ou bien des impériosités mictionnelles ou des choses comme ça. Voilà, ce sont là les conséquences en rapport avec la compression des organes voisins. Et en rapport avec la grossesse, docteur Christian a effleuré un peu les conséquences des myomes, disons les influences entre les myomes et la grossesse et vice-versa. Alors, une femme qui a des myomes, elle peut avoir des problèmes à différents niveaux. Ça peut être soit pendant la grossesse, soit après la grossesse. Pendant la grossesse, j'avais parlé des avortements à répétition. Elle peut commencer à perdre les grossesses simplement parce qu'elle a des myomes à l'intérieur de la matrice, qu'on appelait extracavitaire, et ça fait que ça réduit l'espace où la femme doit se développer. Et donc, dès que la grossesse atteint un certain âge, voilà, la femme va perdre des grossesses de façon répétitive. C'est possible du fait des myomes. À part ça, même si l'enfant se développe quand même et que les myomes est gros, ça peut faire que il y ait des anomalies, on va appeler ça des déformations. L'enfant peut naître avec des déformations parce que l'espace, au lieu de faire ses mouvements, est réduit par un myome qui l'occupe. Voyez-vous.
Docteur, et s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît. Lorsque Allô? Vous parlez du myome, la grosseur du myome, ça peut aller jusqu'à quelle taille? Ça peut aller jusqu'à la taille de quel fruit, par exemple?
Ouh, ça dépend. Ça dépend en tout cas. Ça peut aller jusqu'à. Moi, j'ai déjà enlevé des myomes de plus de 40 cm des grands axes, imaginez-vous un peu. Donc, il y a des murs qui peuvent occuper pratiquement tous les ventres. Ça dépend, ça peut remonter vraiment jusqu'à vers l'estomac, ça dépend des tailles. Donc, ça peut aller vraiment d'un tout petit comme une chic, ou devenir comme une mandarine, devenir comme une orange, comme une pamplemousse.
D'accord.
Voire même plus. Oui,
d'accord,
donc, ça dépend.
Merci docteur.
Ça dépend,
oui, on avait souhaité avoir cette précision.
Ça dépend de ses dimensions.
Oui. D'accord.
Oui. Alors, je disais que si le myome est gros, s'il est assez gros et qu'il est vraiment à l'intérieur de la cavité, ça peut gêner le développement de l'enfant et l'enfant peut naître avec, pas avec des malformations, mais je dis bien avec des déformations. Ces déformations-là peuvent être ce qu'on appelle les pieds beaux. Vous avez déjà entendu parler des pieds beaux.
Exactement, oui.
On peut avoir des pieds beaux, justement, du fait des myomes, parce que l'enfant n'avait pas assez d'espace dans les ventres pour faire tous ces mouvements, ou les myomes ont fait que ça coinçait les pieds de l'enfant à une certaine position et il va naître avec une déformation. À part ça, après l'accouchement, j'avais parlé des hémorragies, du fait des myomes. Déjà, pendant le travail d'accouchement, c'est un travail qui ne se fera pas normalement parce que la matrice ne va pas bien se contracter du fait des myomes. Ça, c'est une complication. À part ça, si l'accouchement s'est fait quand même, on peut avoir des hémorragies du postpartum. Donc, parce que après, normalement, ce qui s'est fait, c'est qu'après que la fois soit sortie, il faudrait que la matrice se contracte pour assurer l'hémostase, donc pour faire que la femme ne saigne plus. Mais s'il y a des myomes, la matrice ne saura pas bien se contracter et donc la femme va continuer à saigner.
Oui.
Voilà, ce sont là les conséquences en rapport avec la grossesse. Alors, il voulait savoir si pendant les travaux d'accouchement, comment différencier l'hémorragie de la DPPNI et l'hémorragie des myomes. En fait, la DPPNI, ça veut dire décollement du placenta normalement inséré.
Oui.
Ça, c'est une ancienne appellation d'ailleurs. Actuellement, on appelle ça hématome rétroplacentaire. Donc, ça veut juste dire que derrière le placenta, qui est l'organe qui nourrit l'enfant pendant la vie intra-utérine, on peut avoir un caillot sanguin qui va décoller le placenta. Alors, les deux entités ne peuvent jamais se confondre, sauf si la personne n'est pas médecin, mais les deux entités ne peuvent pas se confondre. L'hémorragie de la DPPNI, ce n'est pas une hémorragie du postpartum. L'hémorragie de la DPPNI, c'est une hémorragie qui se fait soit avant le travail d'accouchement, soit pendant. Vous voyez, la femme, elle était à la maison, et puis elle vous vient dans un tableau d'hémorragie génitale qui est assez typique, parce que les gens qui sont passés par la faculté de la médecine, on les a appris comment reconnaître une hémorragie de la DPPNI. C'est assez typique, les sang noirâtre, il y a un contexte d'hypertension, il y a des traumatismes qui accompagnent ça, et vous savez que ça, c'est la DPPNI, et ce n'est pas une hémorragie du postpartum. C'est une hémorragie qui survient soit avant le travail d'accouchement, soit rarement pendant le travail. Voilà.
Voilà.
Ça, alors, c'est l'hémorragie de la DPPNI. À l'opposé, l'hémorragie à rapport avec les myomes, c'est une hémorragie du postpartum. Quand on dit postpartum, ça veut dire après l'accouchement. La femme a déjà accouché et parce que là, les myomes, la matrice ne sait pas bien se contracter, elle se sent une hémorragie génitale. Donc, il n'y a pas de confusion possible et catastrophique. Par rapport à ce que docteur Mwamba a dit...
Rapidement, parce que à bientôt, on s'achemine vers la fin ce magazine.
Il a dit beaucoup de bonnes choses, mais je ne sais peut-être pas revenir sur ça, parce que on devait rester dans les sujets, mais parce qu'il n'était pas question de donner un cours sur les myomes. Mais bon, les sièges, il a dit, ça peut toucher les différentes cliniques, parce que la matrice, on va les diviser à trois parties, comme il a dit. Il y a aussi les couches qui s'organisent en trois couches. Donc, il y a la couche interne qu'on va appeler l'endomètre, les muscles de la matrice, et puis la cerise. Donc, il a dit beaucoup de choses. Bon. Les diagnostics, ça peut se faire cliniquement, donc l'examen clinique suffit, mais vous pouvez faire recours à l'échographie, c'est le gold standard pour poser les diagnostics des myomes. Mais au-delà de ça, vous pouvez même demander un IRM. Et pour docteur Christian, ce n'est plus de pratique aujourd'hui, tu ne vas pas demander une radiographie de l'abdomen en blanc juste pour diagnostiquer les myomes. Non, un myome calcifié, une bonne échographie, les diagnostics. Ok, tu ne vas pas aller demander une radiographie, juste une radiographie de l'abdomen en blanc pour faire ce diagnostic. Et l'hystérosalpingographie, qui est la radio en fait de la matrice et des trompes, c'est indique qu'il y a des myomes dans deux situations. La première situation, c'est lorsque vous avez devant vous une femme qui a des myomes, mais dans un contexte d'infertilité. Et là aussi, un désir de conception. Là, il faut demander une hystérosalpingographie. Ou bien, qui est là des myomes, mais en même temps, et les myomes qui ont comme symptomatologie des saignements abondants. C'est là qu'il faut demander l'hystérosalpingographie, mais pas dans toutes les autres situations. Donc, mais bien au-delà, actuellement, pour les myomes extracavitaires, il y a des examens qui sont encore plus avancés, qui sont plus recommandés. L'examen qui est plus recommandé pour ces diagnostics, c'est l'hystéroscopie.
Oui.
L'hystéroscopie, c'est un examen d'endoscopie qui nous permet d'entrer dans la matrice, à l'intérieur de la matrice, comme se développe l'enfant, avec une caméra pour aller voir si, là vous voyez vraiment en visu s'il y a des myomes, mais avec plus de précision, et même lorsque vous devez les opérer, vous savez avec précision comment les aborder, comment les enlever.
Merci.
Voilà un résumé.
Oui, merci beaucoup, docteur Dimba Jules. Nous rappelons que vous êtes gynécologue. Avec vous, on a parlé des myomes, cause, traitement. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup, Radio Capi. Merci à tous les auditeurs.
Fin de ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Willem Lungamba qui est à la technique, à la mise en onde, et Tati Mapoukou qui l'a réalisé au coordonné. La présentation, c'était Marcel Ngobombala sous la supervision de Jean-Marc Matek. Au plaisir de vous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.